La semaine dernière, on a vu combien c'est important de s'exposer au soleil. Avant qu'on vienne au Seigneur, nos cœurs étaient par nature. Nous étions des enfants de colère, c'est écrit, des enfants rebelles. À différents degrés, on était froid, on était insensible, des cœurs de pierre, comme c'est écrit, des cœurs durs, des cœurs qui sont fermés à Dieu, au Seigneur et aux autres autour, des cœurs sans intelligence, plongés dans les ténèbres, c'est écrit, et nous étions morts dans nos offenses, sans vie, sans énergie, vraiment sans plaisir. Et un jour, Dieu a dit que la lumière soit, on sait que c'est à la création, que la lumière, quand Dieu a dit que la lumière jaillisse, des ténèbres. Cette même parole-là a été prononcée pour que la même lumière jaillisse dans mon cœur, dans nos cœurs, que la lumière jaillisse dans le cœur de Michel, que la lumière jaillisse dans nos cœurs, dans chacun d'entre nous. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ sont venus à cette lumière-là et ça l'a illuminé nos cœurs, afin que nous puissions à notre tour cette lumière-là qu'on a reçue, on puisse refléter la lumière de la connaissance de Dieu et faire resplendir sur les autres la gloire divine qui rayonne sur le visage de Jésus. C'est pas beau, ça? Hein? C'est beau? Texte tellement puissant. Cette même lumière-là qui a créé l'univers, qui a créé la lumière. Cette même puissance-là a fait la même chose dans mon cœur qui était dans les ténèbres, qui était dur, qui était froid. Et on a reçu en cadeau un nouveau cœur. Un cadeau. Hein? J'ôterai votre cœur dur, insensible, votre cœur de pierre, et je vais vous donner un nouveau cœur. Un nouveau cœur qui aime Dieu, qui est vivant, qui bat pour Dieu, et chaque chrétien, je l'ai dit plusieurs fois, mais si on grattait dans le cœur de chaque chrétien, qu'est-ce qu'on trouverait? Si on va au fond de notre cœur, qu'est-ce qu'on va trouver? Un cœur qui aime Dieu. Wow! Et ça, c'est un cadeau qu'on a reçu de Dieu. D'autres textes ils disent que Jésus habite dans nos cœurs. Le Père et le Fils habitent dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que nous sommes l'habitation de Dieu, que nous sommes le temple de Dieu. Que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes les membres du corps de Christ. La présence de Dieu sur la terre. Comment est-ce que Dieu se fait connaître? Comment est-ce que, si quelqu'un veut voir Dieu, là, il vient ici. Et il va voir Dieu. Nous sommes la présence de Dieu. Comme autrefois dans l'Ancien Testament, c'était le temple, c'était le tabernacle dans le désert. Aujourd'hui, c'est l'Église de Jésus-Christ qui est la présence de Dieu. Et ma question ce matin, pourquoi est-ce qu'il faut gratter? Pourquoi est-ce qu'il faut gratter pour découvrir ce nouveau cœur? Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Et la réponse que j'ai trouvée, c'est simple. Je dois faire ma part. Aimer Dieu, c'est un choix. C'est par la foi qu'on vit. C'est par la foi que ce nouveau cœur-là se met à battre et que je peux le ressentir et voir les effets d'un cœur qui aime Dieu. Hein? Dieu nous a laissés libres et nous laisse encore libres. Il veut qu'on vienne à lui de tout notre cœur. Et ça, il ne le fera pas à notre place. Il nous a tout donné. Il nous a donné l'instrument pour renouveler cette communion intime avec lui pour laquelle on a été créé. Il nous a donné ce cœur nouveau-là. Mais c'est possible que ce cœur-là, il soit enseveli dans les décombres de mon ancienne vie. C'est pour ça qu'il faut gratter, il faut fouiller, parce qu'il y a toute mon ancienne vie qui vient comme brouiller les cartes, brouiller la communion avec Dieu. Et il y a aussi le tourbillon de la vie. On est pris dans tellement d'activités, tellement de responsabilités, et beaucoup de soucis, beaucoup de plaisirs qu'on peut trouver dans ce monde que c'est pas automatique, que ce cœur-là va se connecter, va se brancher sur la source. Ça prend un choix, ça prend une décision de ma part, ma participation. Jésus frappe à la porte de mon cœur. Et souvent, je pense qu'il n'y a personne qui est là. On est absent de notre propre cœur. Les Québécois en particulier sont absents de leur propre cœur. Ils ne sont pas là. Ils sont ailleurs. Pourquoi? On l'a vu la semaine dernière, mais quand c'est sale puis ça pue, t'as pas le goût d'aller là. Ça prend un bon ménage. C'est pour ça qu'on est absent de notre cœur. On fuit dans toutes sortes de choses. Mais Jésus est là, il frappe à la porte. Et il veut faire justement ce ménage-là. Si on prend le Nouveau Testament, par exemple, si on prend les Épîtres, je ne sais pas si quelqu'un a déjà calculé le nombre d'exhortations, d'encouragements, de conseils, d'impératifs pour nous corriger, pour nous instruire, pour qu'on puisse savoir comment marcher avec le Seigneur et ne pas marcher comme avant dans la chair, dans le monde, et, etc., etc. Les Épîtres ont été écrites pour ça. Parce que c'est pas évident, parce que ça vient pas tout seul, parce qu'on a un choix à faire, parce qu'on a des décisions à prendre. On a une responsabilité de répondre à l'amour de Dieu. On peut recevoir un Stradivarius en cadeau. Super instrument pour jouer de la musique. Est-ce que c'est suffisant? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à jouer. Hein? Oui, il faut apprendre à jouer. Il faut apprendre à jouer. Et je vous dis, c'est pénible. Julie, ma fille, à jouer du piano, c'était assez terrible dans la maison au début. Sujet de beaucoup de beaucoup de plaintes et de lamentations des gars. Ça, ils jouaient de la guitare. Alors, mais ça s'apprend. Et je dirais, avant d'apprendre le violon, d'apprendre à jouer notre instrument, qu'est-ce que ça prend? Le désir. Le désir. Hein? La soif. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu m'a donné un cœur qui désire. Hein? C'est là, au départ. En moi, j'ai, dans ma nouvelle nature, soif de Dieu. Et j'ai besoin, c'est vital, j'ai besoin de me brancher à la source. Sinon, je vais être sans force. Sinon, je vais être sans vie, sans joie, sans paix, sans amour. Je vais avoir un nouveau cœur, mais qui est vide et qui a besoin, hein, qui a besoin de connecter, d'être branché sur le Seigneur, sur Jésus-Christ, pour se mettre à battre et à vivre, à être vivant pour Dieu. Et je dirais le plus grand danger pour un chrétien dans le monde dans lequel on vit, cette société québécoise se débrouille bien sans Dieu, n'est-ce pas? Et ça, c'est notre malheur. Parce qu'on peut très, très bien, en tout cas, c'est relatif, se débrouiller dans la vie sans Dieu. Bon job. Hein? Plein de distractions. Plein de choses intéressantes à faire. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Ce qui fait que on nage dans une société qui se débrouille bien sans Dieu. Et je pense que ça affecte beaucoup ma propre vie, la vie d'un croyant. on est capable de passer une certaine période de temps sans brancher au Seigneur vraiment, puis bien se débrouiller. Et ça, c'est un malheur. Le Seigneur est là, il frappe à la porte, mais je ne ressens pas vraiment le besoin de venir dans sa présence. Parce que possiblement que je suis absent, je ne suis pas là, je suis ailleurs. Et même si je ressens le besoin de ces moments intimes avec Dieu, même si je désire avoir ces moments intimes avec Dieu, ça demeure des vœux pieux qui ne passent pas dans la pratique. Tellement d'autres choses à faire. Tellement d'autres choses qui sont plus attrayantes, plus séduisantes, plus satisfaisantes, mais c'est un leurre, c'est un hameçon, hein, dans lequel on mord. Et on n'a pas on ne prend pas ce temps-là précieux. Et il y a tout un combat spirituel aussi, parce que quand on dit on va faire ça, on va passer du temps avec le Seigneur, vous avez toute une armée d'esprits méchants qui vont tout faire pour que ça n'arrive pas. Alors, en vous lançant ce défi-là, s'exposer au soleil à tous les jours, une heure de temps, ça va prendre un combat, ça va prendre des guerriers, ça va prendre des personnes qui ont soif, des personnes qui vont gratter assez dans le fond de leur cœur, qui vont désirer cette communion-là. Se brancher à la source. Combien de fois je me lève, je suis tout croche, une humeur, on ne sait pas pourquoi, pas de paix, pas d'énergie, pas de joie, pas d'amour. Et puis, juste m'exposer au soleil. Né dans la présence de Dieu, puis là, tranquillement, pas vite, connecter, me brancher, exprimer à Dieu ce que j'ai sur le cœur. Et sortir de là, réénergiser, hein? En paix. J'angoisse facilement, hein? Anxieux. C'est quoi le secret? Les pilules, ça peut être bon pour un certain temps. C'est correct. Mais c'est pas la... ça guérit pas. À la source. Une heure. En présence du Seigneur. Tu m'en diras des nouvelles. Mais, on nage dans un monde qui... pour qui Dieu est tellement loin dans les priorités. On nage là-dedans, je comprends. Que de dire, on va passer du temps avec le Seigneur chaque jour, c'est presque fou de demander ça. Mais c'est pas fou. C'est la différence entre une vie riche, la vie abondante dont Jésus a parlé, et une vie qui ressemble à ceux qui sont autour de nous, sans joie, sans paix, sans satisfaction profonde. Ne fait qu'exister. Alors, il faut que le courant passe, il faut recharger notre batterie, il faut refaire le plein à chaque jour, sinon c'est impossible pour moi de vivre la vie chrétienne d'une façon satisfaisante, d'une façon qui est plaisante, qui me procure la joie, la paix. Il y a trop de... À chaque jour, il y a trop... Tu viens dans la présence du Seigneur, puis là, tu commences à énumérer tes propres besoins, les besoins de ta famille, les besoins de l'Église. Ça finit plus. Ça finit plus. On a besoin, mes frères et sœurs, c'est vital, on a besoin de brancher à la source. Sinon, on ne passera pas à travers. On va sombrer dans la misère spirituelle. Est-ce que vous me croyez? Alors, pourquoi on ne le fait pas? On va tellement en ressortir béni qu'on on va vouloir continuer. Ces moments-là dans ma vie qui ont été précieux. C'est comme si on tombe dans une routine, on passe dans des moments de sécheresse, des moments où on dirait que se connecter avec Dieu, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de réponse au numéro que vous avez composé. Hein? Et on accroche la ligne. Après 2 minutes. Ou après 5 minutes, on ne sait plus quoi dire. Alors, je vous propose des accords, des choses qu'on peut faire qui vont rendre la prière quelque chose de le fun, quelque chose de vivant, quelque chose d'efficace, quelque chose de... 5 minutes, il y en a 12. 5 minutes fois 12, ça fait 60 minutes, vous allez voir, vous allez manquer de temps. Hein? 5 minutes de louange, 5 minutes d'écoute, 5 minutes d'action de grâce, 5 minutes de requête. 5 requêtes, ça c'est requête extérieure, intercession. Je les mêle peut-être, là, c'est pour les autres. Le chant, méditation, on a déjà étudié pas mal ce point-là. Les écritures, se nourrir de la parole, la veille, combat spirituel, la confession, l'attente, et on refinit par la louange. 5 minutes de chaque. Vous ne verrez pas le temps passer. Essayez-le, je vous le dis, ça marche. C'est un cours que j'ai suivi il y a 30 ans. Un monsieur Eastman, Dick Eastman, qui a un petit livre, L'heure qui change le monde. Vous avez connu, c'est très répandu. Et il se base sur Jésus qui est allé au jardin de Gethsémané, est allé prier, puis quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a reproché à ses disciples? Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi? Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi? Alors, il reprend ça, puis il dit, est-ce que ça s'applique? Dans les 24 heures qu'on passe dans une journée, est-ce que... je sais que la moyenne, quand même, on ne part pas à zéro. Et dans ces choses-là, ce n'est pas des choses nouvelles non plus. Mais on a besoin, je pense, de s'encourager. On a besoin de revenir à la base. Je reviens continuellement à cette chose-là depuis 30 ans. Et dans cette heure-là, le but, c'est pas, bon, j'ai fait mon heure, puis là, je suis correct, puis... Non, c'est pas ça du tout. Non. Je me suis branché sur la source d'énergie, puis j'en suis ressorti ragaillardi. J'en suis ressorti plein d'énergie, disposé à suivre le Seigneur. Avec, tu sais, il y a tout là-dedans, la confession. Là. Si j'ai quelque chose sur le cœur, on le règle tout de suite. Et si je suis attaqué par des mauvais esprits, hein, au nom du Seigneur, non, je ferme la porte à ces esprits-là. Ils n'auront pas ma peau. Je ne passerai pas ma journée à ruminer dans mes pensées, leurs plans, et, etc., etc. Il y a plein de choses. Vous avez un résumé, hein? Si vous n'en avez pas, j'en ai fait assez. Mettez ça dans votre Bible et puis expérimentez. On va en parler à chaque semaine. On va commencer par la louange aujourd'hui. Et le but, c'est un peu ça. Que ces paroles-là deviennent quelque chose de vivant. Dans Éphésiens, deux textes dans Éphésiens, il dit, à cause de cela, Paul, il dit qu'il fléchit les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Est-ce qu'on a besoin de ça? Puissamment fortifié dans notre esprit, par son esprit, dans l'homme intérieur, dans notre cœur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, qui est synonyme pas mal de la présence du Saint-Esprit. Moi, j'ai besoin d'être puissamment fortifié, j'ai besoin de l'être à tous les jours. Sinon, je vais passer ma journée, faire toutes sortes de choses et vaines. Et puis un peu plus loin, à la fin du chapitre 3, il disait, à celui qui peut faire par la puissance qui agit, hein? Peux-tu mettre ton nom? Comment est-ce que Dieu agit? C'est en moi, en Michel, Christian, Maud, Bill, Marie-André. Et il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce qu'on croit ça? Qui a besoin d'être puissamment fortifié? Comment ça va se faire, ça? Ça va venir tout seul? Si je continue à vivre comme je le fais là, est-ce que je vais expérimenter ça? Et bien sûr, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, même 2000 ans plus tard, au siècle des siècles. Amen. OK, on va regarder un premier accord rapidement, puis on va le pratiquer ensuite. Alors, premier accord, vous vous souvenez, c'est quoi? Par quoi on commence? On commence par la louange. Et dans les psaumes, vous savez, souvent il y a un parallélisme, c'est-à-dire que on écrit une phrase, puis dans l'autre, on met un synonyme de ce que veut dire la première phrase. Alors, il y a un synonyme de louange dans le psaume 34. Pouvez-vous deviner ce que c'est? Dans la première phrase, il dit « Je bénirai l'Éternel, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Alors, c'est quoi le synonyme de louange? Bénir. Bénir. Quelqu'un a une idée de ce que c'est que bénir? Une façon de louer le Seigneur, c'est le bénir. Bénir Dieu. Lui, on est habitué qu'il nous bénisse, mais nous autres, bénir Dieu, ça veut dire quoi? Un à la fois, s'il vous plaît. Peut-être lever la main comme ça. Oui? Oui, bénir. Reconnaître ses bienfaits, c'est proche, oui. C'est une autre chose, c'est une autre façon de louer, c'est-à-dire de venir devant le Seigneur, l'action de grâce, mais la louange, c'est bénir Dieu. Alors, je vais vous donner un petit indice. Le mot hébreu pour bénir, c'est genou. Ça veut dire genou. S'agenouiller devant quelqu'un, pour qui l'on a beaucoup d'estime, pour lui rendre honneur. Dieu en est certainement digne plus que toute autre personne. Alors, c'est comme si, OK, Seigneur, je te bénis, je reconnais qui tu es. Je m'abaisse devant la personne que tu es. C'est toi le boss, autrement dit. Bénir Dieu, c'est... Oui? Non. Non. Le mot bénir veut dire heureux aussi. Comme dans le Nouveau Testament, le mot grec, heureux Dieu nous transmet le bonheur. Heureux les, c'est le mot béni, le béni les affligés, béni les gens. Dieu nous transmet le bonheur. Donc, on ne peut pas transmettre le bonheur à Dieu, il y a un sens différent pour Dieu. Ouais. Plus le sens hébreu. OK? J'en ai 10, alors, si on veut le pratiquer, il va falloir. Un autre synonyme de louer. Quelqu'un veut se risquer, oui? Oui, mais il faut on reste dans le psaume. Tu le vois pas? Est-ce que vous voyez, derrière? Oui, OK. Alors, Dans la phrase, il y a un synonyme de louer l'Éternel qui est invoquer. Et invoquer, ça veut dire quoi? Parce qu'on invoque. Ouais. Oui. On invoque quelqu'un qui, on pourrait dire, qui est supérieur à nous, qui est hein, une autorité. Alors, c'est un peu la définition que je peux trouver. Faire appel, crier, demander l'intervention à celui qui détient l'autorité. Je peux en tout temps décrocher le téléphone rouge, avoir un entretien avec le président du monde entier. Alors, c'est un peu ça. J'invoque. Hein, je fais appel à celui qui est assis sur le trône de l'univers. C'est quelque chose. Donc, louer le Seigneur, c'est invoquer son nom. Alors, louer l'Éternel, invoquer son nom. Ensuite, on a publier ses œuvres parmi les peuples, rappeler la grandeur de son nom. Publier, c'est quoi? Faire connaître. Hein? Quelque chose de publier, c'est quelque chose de public. Alors, reconnaître la vérité sur Dieu, en être témoin personnellement, pour ensuite le proclamer publiquement. Lorsque je loue le Seigneur, une façon de louer le Seigneur, c'est de proclamer que Dieu est telle chose. Un autre synonyme? Célébrer Dieu. Et célébrer, c'est? Fêter. Une fête. Exprimer à Dieu notre satisfaction, notre plaisir, notre joie qu'on trouve en lui, dans le fait de faire partie de sa famille, de bénéficier de tous ses bienfaits. Et ça s'exprime bien par le chant. Il y a des cantiques de louanges. Vous avez la liste dans ce que je vous ai donné, là. Et on peut prendre un psaume. Si les mots ne viennent pas, si on n'est pas habitué à louer, on peut emprunter les mots de David ou de quelques autres personnes, puis les faire nôtres, dire, mettre « je », « moi », à la place de la personne qui parle, et s'entraîner à louer le Seigneur. « Ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour je te glorifie. » Alors, glorifier Dieu, ça veut dire? Lui rendre gloire, hein? Exprimer mon admiration, mon émerveillement devant la beauté de Dieu ou tout autre attribut. Un magnifique coucher de soleil n'est que le faible reflet de la gloire de Dieu. Alors, on est devant la nature de Dieu et ce qu'on ressent, c'est de l'admiration, n'est-ce pas? Rendre gloire à Dieu, c'est, il est admirable. Seigneur, je t'admire. Louer, c'est? Pousser des cris de joie, éclater d'allégresse, c'est plus que se réjouir, hein? Plus que célébrer, élever nos voix et encore là, chanter des louanges. Alors, il y a quelque chose qui vient du cœur. Quatre façons d'exprimer des forts sentiments comme la joie que j'éprouve envers Dieu devant les œuvres qu'il accomplit. C'est quand la dernière fois qu'on a crié « Wow! » On a crié « Wow, Seigneur! » Aussitôt, c'est au match de hockey, mais ils sont en congé cette semaine, mais c'est quand la dernière fois qu'on a crié « Wow! » Dieu est fantastique. On a besoin de ce temps-là. Et moi, espérer, un synonyme de louer, c'est relié à la louange. Tourner les regards pleins de foi vers celui qui délivre toujours. Affirmer mon espérance en Dieu dans la détresse et le louer. Et si quelqu'un est capable de faire ça, quelqu'un qui ça va mal, qui, dans le fond, il a épuisé toutes ses ressources, puis qui est capable de louer le Seigneur, wow! Wow! Ça, c'est puissant. La louange est une arme puissante. Et ça chasse la mauvaise humeur, les mauvais esprits. Se mettre à louer le Seigneur dans des moments difficiles, Wow, ça c'est puissant. Invoquer son nom. Louer, c'est faire connaître parmi les peuples les hauts faits de Dieu. Dieu est honoré lorsque je témoigne publiquement de lui. À qui vais-je parler de ce que Dieu fait et a fait pour moi cette semaine? Dans certaines cultures, faire ça, c'est au travail, c'est quelque chose de naturel, ça passe bien. Mais un Québécois qui va, qui va dire, wow, merci Seigneur, ou loué soit le Seigneur, oh boy, lui il est étrange. Je pense qu'il en reste deux. Je, exalté, qu'est-ce que ça veut dire, exalté? Élevé, hein? Reconnaître, déclarer qu'il est souverainement élevé au-dessus de tout l'univers, c'est aussi par le fait même lui donner la première place dans ma vie. Exalté. Dieu, c'est la première place dans ma vie. Alors, il y en a plusieurs synonymes, hein? Si on lit dans les prophètes ou dans les psaumes, il y a loué, toujours accompagné, ou souvent accompagné d'un synonyme. Il y en a lequel qu'on n'a pas vu? Rappeler la grandeur. Se rappeler qui est Dieu. Hein? Faire appel à ma mémoire pour ne pas oublier ingratement tous ses bienfaits. C'est facile quand on est dans une période difficile de focusser sur le présent. Mais reculons un petit peu. Allons voir dans notre vie passée les moments où le Seigneur s'est manifesté, où le Seigneur a vraiment intercédé pour moi, ou est venu me sauver. Et ça, c'est une façon de louer le Seigneur. Seigneur, je te loue parce que je me souviens quand j'étais dans cette position-là. Oublions pas ces moments avec le Seigneur. Alors, plusieurs choses qu'on peut faire dans ce temps de louange-là. Des synonymes de la louange, on les a toutes. On peut bénir l'Éternel, invoquer son nom, publier ses œuvres, célébrer, glorifier, pousser des cris de joie, espérer toujours, faire connaître parmi les peuples ses hauts faits, l'exalter et rappeler la grandeur de son nom. C'est ça, en gros. Si on fait le tour des psaumes et des prophètes, qu'est-ce que ça voulait dire, louer l'Éternel? Est-ce qu'on a assez de munitions pour pratiquer cet accord-là, cette façon-là de venir dans la présence de Dieu et de célébrer? Premier accord, la louange, vous l'avez, c'est ce que vous avez sur vos petites feuilles. Alors, exprimer à Dieu mes raisons de louer, ce qu'il est. On se concentre sur ses attributs, ce qu'il a fait aussi et fait en ce moment. Quelles sont les bénédictions, Seigneur? Lire un des psaumes de louange, vous en avez quelques exemples là, mais je centre mes pensées sur Dieu. Je détourne mes pensées de moi-même, puis là, je me tourne dans la présence de Dieu, ses attributs. Et c'est comme un langage amoureux. J'aime cette définition-là. Je me réjouis de dire à celui que j'aime ce que j'admire en lui, sa bonté, ses qualités, ses actions, tout ce qui m'attire vers lui. On le fait? Alors, juste se retourner, former des petits groupes, et on va prendre quelques minutes, et puis louer le Seigneur, choisissez une des façons de le faire, mais qu'on aille dans la louange, simplement entrer dans la présence de Dieu, puis louer son nom. D'accord? Alors, pratiquons-le.